tout d'abord les grands titres de ce 13 juin. Le Premier ministre Scott Morrison réitère que les relations de l'Australie avec la Chine reste importante malgré les récentes disputes. Le Premier ministre est au sommet du G7. Les autorités sanitaires dans le Victoria poursuivent la recherche de la source du seul cas de COVID-19 acquis localement hier. Tennis, la Tchèque Barbora Krejčíková remporte son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros à Paris. Le Victoria a enregistré un nouveau cas de COVID-19 hier, acquis localement. Le ministère de la Santé affirme que le nouveau cas est un cas contact d'une personne déjà infectée et qu'ils ont été placés en quarantaine tout au long de leur période infectieuse. Cela survient alors que les autorités s'efforcent de lier le cas local de samedi à l'épidémie de variante Kappa. Le cas mystérieux est un homme vivant dans le centre de Melbourne avec sa jeune famille qui a fait tout ce qu'il fallait lorsqu'il a présenté des symptômes. Mais le commandant des tests du COVID dans le Victoria, Jerome Weymar, se dit préoccupé par le cas non découverts en raison des faibles taux de tests. Pendant ce temps, l'Australie s'est engagée à fournir 20 millions de doses de vaccins COVID aux pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a annoncé qu'il reviendrait au travail plus tard ce mois-ci, soit le 28 juin prochain, après avoir subi des blessures à la colonne vertébrale en mars dernier. Daniel Andrews était soigné au centre de trauma de l'hôpital Alfred à Melbourne. Il s'est cassé plusieurs côtes lorsqu'il a glissé sur les escaliers d'une maison de vacances dans la péninsule de Mornington et a subi une fracture aiguë de la vertèbre T7. Daniel Andrews a quitté l'hôpital Alfred le 15 mars dernier et se rétablit depuis chez lui à la maison. Il dit qu'il se sent bien et a remercié sa femme, ses enfants et le personnel médical pour leurs soins. Il a également remercié le chef par intérim du Victoria, James Merlino, d'être intervenu et d'avoir dirigé l'État à travers une période vraiment difficile lors du quatrième verrouillage dû au COVID-19 dans l'État. Le Premier ministre australien Scott Morrison a rencontré pour la première fois le président américain Joe Biden en marge du sommet du G7 en Angleterre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est également joint à eux pour une discussion de 40 minutes. Scott Morrison déclare que c'était une réunion d'amis et d'alliés qui partagent une vision du monde et une belle opportunité. L'Australie est présente comme une nation, je cite, « invitée à ce sommet » de cette année par Boris Johnson, permettant à Scott Morrison de participer à plusieurs sessions avec les dirigeants du G7. Et ses dirigeants ont lancé un plan pour aider à construire des infrastructures dans les pays les plus pauvres, offrant un partenariat axé sur les valeurs de haute qualité, en opposition à l'initiative chinoise de la route de la soie. L'adoption du projet Build Back Better World, d'inspiration américaine, intervient après que le président américain Joe Biden et les dirigeants du G7 se soient rencontrés pour aborder la concurrence stratégique avec la Chine. Les dirigeants se sont également engagés à prendre des mesures pour aider à répondre aux besoins en infrastructures des pays à revenus faibles et intermédiaires dans l'espoir de contrer l'influence de la Chine dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Le Premier ministre australien Scott Morrison déclare que l'Australie soutient une région indo-pacifique stable.
Australia has benefited greatly from China's economic success. China has benefited greatly from Australia's trade with them. And of course we want to see that continue. We have a comprehensive strategic partnership with China. And partnerships are about managing issues that occur within the relationship. We of course would like to see the dialogue that was occurring to continue again and start again.
Et le Premier ministre Scott Morrison a renouvelé ses appels à une enquête approfondie sur les origines du COVID-19 au milieu d'une deuxième journée de réunion au sommet du G7. Lors du forum sur la santé, l'hypothèse de la fuite de laboratoires sur les origines du Covid-19 a été discutée, le communiqué final du sommet étant susceptible d'appeler à une nouvelle enquête de l'Organisation mondiale de la santé. Scott Morrison déclare qu'une autre enquête aiderait à prévenir de futures pandémies et le but des enquêtes est de comprendre et de ne blâmer personne.
Today's session, though, focused very much on ensuring there was greater transparency. Transparency, letting the sunlight in when it comes to understanding how this calamitous pandemic has impacted on the world. And again, not seeking to apportion, it's not about apportioning the blame, it's not about politics, it's not about anything. It's how could this have been avoided?
Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, est d'accord avec Scott Morrison et a déclaré que la coopération et la transparence du côté chinois étaient nécessaires. L'enquête initiale de l'OMS a révélé qu'une fuite de l'Institut de virologie de Wuhan était extrêmement improbable. Et puis les manifestations se sont poursuivies au milieu d'une autre journée de réunion du G7 à Cornwall. Le changement climatique est l'une des principales questions à l'ordre du jour du sommet. Mais les militants affirment que les politiciens ont fait des promesses creuses en matière d'action climatique. Certains ont même reconstitué une marche médiévale pour attirer l'attention sur ce qu'ils appellent les crimes environnementaux du monde moderne. Richard Eccleston, un militant de 59 ans, déclare qu'il faut faire davantage.
Our theme for today is the fact that G is for greenwash. So what we're saying is that we understand what the government and big business are doing. They are basically painting a story like they're doing what needs to be done for the climate and ecological emergency. But we know that they're not. So we're just bringing that to their attention, that we're watching them and we...
Et voilà, Richard Eccleston, un militant de 59 ans. Claire Broadhurst pour Radio France Internationale revient maintenant sur des dossiers épineux à ce sommet du G7.
Le dossier qui empoisonne tout depuis le début continue à faire des vagues. Ce sont les dispositions commerciales spécifiques à la province britannique qui sont au cœur du différend. Des contrôles sur certains échanges entre la Grande-Bretagne et la province au nord de l'île sont prévus pour éviter qu'ils aient lieu avec la République du Sud. Les dirigeants européens appellent au respect des accords signés et à trouver une solution pragmatique. Sans surprise, le secrétaire d'État aux affaires étrangères britannique, Dominic Raab, n'a pas mâché ses mots. Il a exigé que l'Union européenne cesse d'être aussi têtue et obstinée lorsqu'il s'agit du protocole étudié pour l'Irlande du Nord. Nous ne laisserons pas l'intégrité du Royaume-Uni être menacée, a-t-il ajouté. Et Boris Johnson a été clair dans une interview à la presse anglaise ce samedi, si ses anciens partenaires refusent de faire preuve de souplesse, il n'hésitera pas à invoquer l'article 16 qui l'autorise à passer outre certaines dispositions du protocole nord-irlandais en cas de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales. Il faut qu'il se rentre ça dans le crâne, a-t-il conclu.
En France, maintenant, la marche des libertés contre l'extrême droite dans tout le pays, hier, à une semaine du premier tour des élections régionales. Marine de la Moissonnière était à Paris pour Radio France Internationale.
Des revendications multiples, mais un coupable, Emmanuel Macron, que beaucoup de manifestants accusent de faire le jeu du Rassemblement national. Caroline, 65 ans, gilet jaune et militante d'attaque.
Il est extrêmement important d'arrêter cette espèce de maelstrom où tout le monde court derrière l'extrême droite. Il n'y a plus de convictions, c'est simplement des ambitions personnelles, mais c'est lamentable. Nous, les Français, les trois quarts des Français, on ne veut pas ça.
Ils ne sont pourtant pas nombreux dans la rue cet après-midi. Eric, 31 ans, travaille dans la culture. Il n'est pas surpris.
Le maintien de l'ordre des précédentes manifestations fait qu'il y a de moins en moins de gens qui vont venir de toute façon parce que les gens aussi ont peur de se prendre des gaz lacrymogènes, des flashballs ou juste de se faire nasser par la police. Donc Emmanuel Macron a érodé aussi les mouvements sociaux depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est juste la conséquence.
Alors, est-ce que les sympathisants de gauche vont se faire entendre aux élections? Pas sûr, reconnaissent ces manifestants qui, comme Léonie, conseillère conjugale venue de Saint-Nazaire, demandent à leurs représentants politiques
d'être moins cons les uns les autres, à se tirer dans les pattes. À un moment, il faut s'unir, quoi. On n'a pas le choix, en fait.
S'unir contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, voilà le seul dénominateur commun de la gauche pour l'instant.
Et puis Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui a pris part à cette marche, a été enfariné. On écoute sa réaction.
Ça va, il ne m'a pas tiré dessus, c'est déjà ça. Bon, c'est la violence, je vous l'ai dit il y a un instant. Bon, je ne sais pas qui est la personne qui... Mais elle a réussi son coup, parce que comme vous êtes tous là, bah, le spectacle est assuré. Bon, bah, ça va, je n'ai pris que de la farine, je suis vivante. Ouais, il y a une grande tension. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un seuil qui a été franchi. Et maintenant, je ne sais pas si vous ne me voyez pas plus ému que ça. C'est peut-être parce que ça aurait pu être pire.
En Allemagne, maintenant, avec le congrès hier des écologistes, avec Annalena Baerbock désignée comme candidate du parti écologiste à la chancellerie. Son portrait par Delphine Nerbollier pour Radio France Internationale.
Annalena Baerbock incarne un changement de génération et de style chez les Verts allemands. Cette jeune députée de 40 ans, mère de deux enfants, est une réalo, une réaliste, comme on les appelle en Allemagne. Spécialiste des questions climatiques et énergétiques, elle prône un changement rapide sur les questions environnementales, associée à une justice sociale. Européenne convaincue, elle a été élue pour la première fois au Bundestag à l'âge de 32 ans. Dans cette carrière express, elle prend la tête du parti en 2018 avec son complice Robert Habeck. À eux deux, ils ont réussi à mettre en sourdine les conflits qui caractérisaient jusque-là leur formation. Les Verts ont un atout, la question climatique, leur sujet phare, est devenu central dans le débat politique. Seule femme à viser la chancellerie cette année, Annalena Baerbock est attaquée de toutes parts et a commis des erreurs qui ont coûté des points précieux à son parti dans les sondages ces dernières semaines. Mais cette ex-championne de trampoline est habituée à la compétition. La chef de file des Verts sait qu'il faut avoir de l'endurance dans ce genre de campagne électorale.
La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, c'était hier, le 12 juin. On écoute Marianne Libertucci, responsable du service plaidoyer et expertise à l'UNICEF.
C'est vrai qu'avec des écoles qui parfois sont fermées dans certains pays depuis plus d'un an, depuis le début de la pandémie, c'est le cas par exemple dans des pays comme la Bolivie où on voit énormément d'enfants qui ne vont plus à l'école depuis tellement longtemps que finalement ils se sont tournés vers le travail et pour beaucoup ne retourneront jamais à l'école. Donc la pandémie a accentué en fait des phénomènes qui déjà étaient un peu inquiétants car effectivement le travail des enfants était en hausse par rapport aux années précédentes avant la pandémie, mais avec la pandémie, la fermeture des écoles, la précarité qui s'est accentuée, eh bien, les enfants au travail sont encore plus nombreux dans le monde. Si on regarde les chiffres par région, il y a quand même des situations de fragilité en Afrique subsaharienne, de crise avec des conflits, des catastrophes naturelles qui finalement impactent la vie des enfants, que ce soit par des migrations forcées, par la fermeture des écoles, par une précarité aiguë, avec un contexte en plus de changement climatique dont l'impact est particulièrement fort dans la région.
L'exportation du café chute dramatiquement en Colombie suite aux manifestations contre le gouvernement du président Iván Duque. Précision d'Altin Lazage pour RFI.
Les manifestants en colère mettent en place des barrages sur les principaux axes routiers qui empêchent l'acheminement des grains de café vers les ports. La Fédération colombienne des caféiculteurs s'inquiète des conséquences économiques pour des milliers de petits producteurs. En raison des retards de livraison qui s'accumulent, ils perdent des clients à l'étranger. Le secteur fait en effet vivre près de 540 000 familles paysannes et les revenus d'environ 3 millions de personnes en dépendent. La production du café est l'un des piliers de l'économie colombienne. Le pays est le troisième producteur mondial après le Brésil et le Vietnam et le premier pour sa production arabica doux, une variété appréciée pour son goût. Le café est également l'un des principaux produits d'exportation après le pétrole et les minéraux.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 16, Hobart 15, Canberra 13, Sydney 19, Brisbane 23, Cairns 29, Darwin 31, Alice Springs maximale de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 13 juin, le Premier ministre Scott Morrison est au sommet du G7 et réitère que les relations de l'Australie avec la Chine restent importantes malgré les récentes disputes. Les autorités sanitaires dans le Victoria poursuivent la recherche de la source du seul cas de Covid-19 acquis localement hier. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench